I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce dont il craint. Michel Montaigne. Le timide a peur avant le danger, le lâche a peur au milieu du danger et le courageux après le danger. Jean-Paul Richter. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Averroès. Ici Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure à discuter de rien d'autre que la peur. Hein? La peur qui fait partie de nous, les humains. Elle est parfois contrôlée, parfois non. Elle est parfois comprise, parfois pas du tout. Mais il y a une chose qui demeure, c'est que la peur, elle fait toujours peur. D'où est-ce qu'elle vient, la peur? Depuis quand on a peur? Est-ce qu'il faut absolument vaincre ses peurs pour être heureux? Ou on peut vivre avec puis être bien quand même? Est-ce que de l'autre côté de la peur se trouve vraiment tout ce dont on a toujours rêvé? Rêvé d'avoir, rêvé d'être? Ou la peur nous a été calquée un petit peu trop positivement dans ce cas-là? Et que dire de la peur d'avoir peur? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Du moins, on va les aborder et on va en parler avec nos invités de choix. Cette semaine, Martin Forgue et Pierre Craig. Bienvenue à On est tous des humains.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Martin Forgue.
Bonjour.
Vous avez été dans les forces canadiennes pendant 11 ans, où vous avez gravi les échelons jusqu'à être caporal-chef en autre titre. Il y a eu d'autres titres, mais quand même. Auteur, directeur littéraire et documentariste, des ouvrages entre autres « L'Afghanicide »,« Une juste colère » et « Un journaliste indigné », pour ne nommer que ceux-là, parce que la liste, elle est longue. Vous écrivez également pour divers journaux. Au fil des ans, comme le journal Voir, par exemple. Vous êtes chroniqueur pour la presse écrite et à la radio, et également, vous êtes conférencier, et à travers tout ça, vous mettez la lumière sur des sujets engagés pour que le grand public en soit conscientisé ou simplement informé la plupart du temps, de base. Une approche qui mélange à quelque part votre point de vue professionnel, mais également personnel, pour avoir touché à de nombreux enjeux de très, très près. Vous faites porte-parole de ces événements-là.
Ça fait beaucoup de chapeaux à porter.
Vous les avez tous.
Mais oui, c'est tout ça. Sinon, oui. Bienvenue. Pas tout en même temps, par contre.
Oh, ben quand même. Bienvenue à l'émission. Pierre Craig, détenteur d'un baccalauréat en sociologie de l'Université de Montréal. Vous débutez votre carrière à la radio de Radio-Canada en 1976, une carrière publique qui durera 40 belles années. Journaliste au magazine Le Point et Enjeu, on vous retrouve à la télévision, notamment à la barre de la très populaire émission La Facture, dont vous avez été l'hôte pendant 13 ans. Président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de 2013 à 2015, vous avez quitté Radio-Canada entre-temps en 2014 pour une retraite qui s'est avérée plutôt une défense de vos convictions via, entre autres, votre association avec le groupe de recherche Adage qui concerne l'accès à la justice civile. Martin en contact avec la peur constamment, tant dans l'armée que les sujets qui sont couverts comme journaliste, la peur des autres fait partie également de votre vie. Vous avez d'ailleurs reçu un diagnostic de choc post-traumatique l'an dernier. Pierre Craig, vous avez fait une sortie publique, entre autres dans une émission animée par André Robitaille, sur vos troubles anxieux et le trouble panique, les crises de panique dont vous avez été victime, entre guillemets, plusieurs fois. Merci, messieurs, d'être là.
C'est un plaisir.
C'est un plaisir.
Est-ce que ça fait peur, avoir à parler de la peur pendant 60 minutes?
C'est très méta comme question.
Mais moi, j'adore ça.
Ce sera une peur à vaincre.
Ah!
Voilà.
Ah, OK, parce qu'il y a, quand même un potentiel.
Ben c'est parce qu'on s'ouvre énormément dans ce genre de, discussion-là. Donc, ça peut créer une petite appréhension. Ils ont peut-être plus qu'une peur.
Je dirais que non. Ben, pour moi, là, c'est parce que je l'ai fait souvent. J'ai donné des conférences. Mais je t'ai dit avant qu'on commence, on va se tutoyer, Emmanuel. On peut-tu faire ça?
Moi, je suis très game.
Es-tu capable de faire ça avec moi, malgré mes cheveux blancs?
Je suis très
prête. Martin, t'es game?
Oui,
il y a consensus.
C'est réglé. C'est donc réglé.
C'est bon, il y a un consensus.
Je t'ai dit, Emmanuel, la dernière fois que je suis venu, que j'ai fait une toute petite mini-crise de panique.
Tu me l'as annoncé tantôt.
Oui, je te l'ai dit.
Et on s'est vu, ça fait deux mois environ.
Mais tu sais, c'est quelque chose, c'est comme un ver de terre qui sort puis qui est reparti. Mais je me demandais pourquoi. Tu sais, ça me prend toujours au dépourvu. Mais non, pour moi, parler de ça, là, de mes anxiétés, de mes angoisses, je l'ai fait plusieurs fois, donc non, ça ne me dérange pas.
Est-ce que la peur, parce qu'il y a plusieurs formes de peur, mais disons qu'on y va méta, comme tu dis, c'est-à-dire au sens large, là, on prend le chapeau le plus haut, la peur dans toutes ses formes, ses définitions. Est-ce que la peur, elle est trop présente dans nos vies personnelles ou est-ce qu'elle n'est pas assez présente? C'est quoi sa place?
Elle n'est pas trop présente parce qu'il faut toujours se rappeler que la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion qui est très naturelle, qui est même un mécanisme de survie. Parce que si on a peur de rien, ben là, c'est là qu'on s'expose à des dangers qui peuvent être jusqu'à mortels. Donc, c'est important d'avoir peur, mais c'est toujours la représentation qu'on s'en fait qui finit par devenir le problème.
C'est quoi la définition qu'on s'en fait qui est un problème? Parce qu'on lui tient pas la main souvent, là.
C'est quand on la considère comme un obstacle insurmontable. C'est quand on la considère comme une faiblesse de caractère. Uh-huh, uh-huh. C'est là. Puis ça, évidemment, il y a toute une dimension qui est beaucoup plus sociale, en fait, que biologique. Ouais.
Moi, je dirais, tu poses la question, est-ce que la peur est trop présente ou pas assez présente? Ta question implique presque qu'on pourrait avoir un contrôle là-dessus. Uh-huh. Or, c'est pas nous qui décidons, c'est la peur qui décide, ou c'est notre être qui décide qu'il a peur. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je pense que Martin a tout à fait raison quand il dit que tu disais, il faut pas se le reprocher comme une faiblesse.
Absolument pas.
On en parlait, Emmanuel, avant l'émission. Moi, je trouve que c'est bien, bien important pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on va peut-être dire, toi, t'as un syndrome de stress post-traumatique, mm-hmm. Moi, j'ai le trouble panique. Je pense que toi et moi, on vit avec ça. Je pense que des gens peuvent difficilement vivre avec leur peur. Mm-hmm. Puis c'est pas par manque de courage, c'est pas par manque d'énergie, c'est pas par manque de je sais pas quoi. C'est parce que la peur est tellement forte qu'elle les écrase. Et moi, je peux parler, puis probablement que Martin, toi aussi, on peut parler de la peur qui nous écrase, qui est tellement forte. Là, moi, j'ai déjà dit que malgré mes 6 pieds 2 puis mes 230 livres, je suis un bœuf physiquement. La panique, là, ça me prend avec un petit doigt et ça me lève d'un air et ça m'écrase au sol comme si j'étais rien.
Mais c'est qu'il faut jamais oublier que c'est une réaction qui est instinctive. Donc, tu sais, ça vient d'un raccoin de nous qui échappe complètement à notre contrôle, comme tu disais, Pierre.
Et pourtant, des fois, elle est rationnelle et des fois, elle ne l'est pas. Parce qu'on peut parler, il y a plusieurs types de peurs. Il y a les phobies, moi j'ai peur des serpents. Mais je m'en sors bien parce que je ne vis pas en Australie, mettons. Tu sais, non, mais c'est vrai. Il y a toute cette
exposition-là. Ma blonde a une peur panique des coquerelles. Ouais. Je devrais même pas dire le mot parce que quand je dis le mot, je ne fais que dire le mot et elle panique.
J'étais pas capable de fermer la télévision s'il y avait un serpent. J'étais pas capable de peser sur le piton. Mm-hmm. C'est ridicule. Là.
Ma copine a peur des mascottes. Elle travaille dans le monde de l'édition, donc les salons du livre sont extrêmement pénibles.
Sérieux? Oui. Excuse-moi, je vais pas rire de ta copine, mais c'est
quand même une peur qui est sympathique. Oui, c'est merveilleux.
J'ai fait exprès pour la raconter de façon un peu légère.
J'espère que ta copine n'écoute pas.
Elle va écouter.
Que tu vas faire le souper ce soir.
Mais c'est ça, il y a tout cet aspect rationnel, parfois irrationnel. Parfois, tu as nommé l'aspect de survie. Mm-hmm. On a un cerveau reptilien à l'intérieur de notre cerveau, une partie qui est très, très, très... C'est un système d'alarme intégré, donc à ce moment-là, c'est bien le fun. Mais il y a d'autres formes de peur, comme la peur d'être abandonné, la peur d'aimer, d'être aimé. Tantôt, tu as dit oui, parce qu'il faut ouvrir. Oui. Donc, il y a cette peur-là de devenir vulnérable aussi.
Tout à fait. Parce que c'est puis tu sais, dans la représentation qu'on se fait, tu sais, on prête flanc quand on se raconte. Donc, tu sais, ça peut être interprété par certains, c'est comme, ben là, fais pas ça, parce que tu vas exposer tes faiblesses, ça peut te nuire, tu sais. Il y a toute une socialisation qui est vraiment un peu tordue quand on parle de la peur. Ouais,
mais moi, mon expérience humaine, bon, je t'ai raconté une anecdote qui se déroule avec ma collègue Céline Galipeau. Mm-hmm. On est tous les deux, bon, je suis président mm-hmm. de la FPJQ à ce moment-là, on est invité par les journalistes acadiens à venir faire chacun une conférence. Céline fait la sienne, je fais la mienne. À un certain moment de ma conférence, je leur parle de mon trouble panique. Écoute, comme par hasard, je leur dis, vous allez trouver ça drôle, mais je suis en train de faire une crise de panique en ce moment-là.
Maintenant.
Ça m'en, ils s'en rendent pas compte, mais moi, je m'en rends compte. Ça m'a enlevé mes moyens. À la fin, merci, tout le monde applaudit, parfait, Céline vient vers moi et elle me dit, Pierre, tu niaisais, là. Puis elle me dit ça très sincèrement, là. Elle ne veut pas rire de moi,
elle
là. Céline
tout.
Est très sérieuse.
Ah oui.
J'ai dit, non, non, Céline, c'est vrai. Et ça a rapproché, tu sais, on n'était pas loin, là, mais je veux dire, ça, j'ai senti que ça l'avait rapproché de moi. Donc, moi, mon expérience humaine, puis je dis ça souvent aux gens, ben, j'ai fait une conférence dans un cégep. Il y avait 600 étudiants. Il y a un petit gars qui vient me voir, ben, un petit jeune, là, qui vient me voir après. Il dit, écoutez, là, j'ai beaucoup d'angoisse, puis je dois avoir une fille que pour laquelle j'ai beaucoup de d'émotions ou de sentiments ce soir, je sais pas quoi faire. Mais j'ai dit, écoute, je suis pas psychologue, hein, mais ce que je te dirais comme humain ou quasiment comme père ou grand-père que je suis, c'est dis-lui comment tu te sens. Puis si elle rit de toi, ben tu sauras peut-être que c'est pour
quelqu'un. C'était pas là qu'il fallait que t'ailles. Mais ce qu'on entend, Pierre, avec ton histoire, que Céline te regardant en ne croyant pas, t'es 6 pieds 2, la peur te prend et te jette à terre, c'est aussi l'idée, et ça on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que la peur, elle a un visage, elle a une préconception, on a des préjugés sur où elle doit être et où elle ne doit pas être. Et on s'invite là à réfléchir, pour nous personnellement, quel visage je donne à la peur et quel préjugé je tiens sur la peur?
Tu veux partir, tu crois qu'ailleurs, plus personne. Tu dis qu'ici on meurt à chaque faux pas, chaque douleur. Tu as grandi. Thank you.
On vient d'entendre Maritza, La peur au ventre.
Toujours en compagnie de Pierre Craig et Martin Forgue, on parle de la peur. Emmanuel Robitaille, qui est ici pour écouter, tout comme vous, qui apprend énormément parce qu'on a parlé de visage et de préjugés qu'on avait par rapport à la peur. Martin, ça t'a parlé, ce visage-là que la peur a?
Énormément, puis on a eu une mini-discussion, puis juste avant de
on parle
de
jamais, on parle pas, on
non,
parle
c'est
jamais,
ça,
on pas
c'est
ça.
C'est le silence complet quand on n'est pas en onde. Mais moi, ma conception de la peur, elle a été... assez bâti autour, tu sais, au sein de la culture militaire. Puis la culture militaire, on le devine, c'est une culture qui est très macho, qui se veut très virile, et la peur peut souvent être très, très mal interprétée, très, très mal. Tu sais, tu avoues que t'as
peur.
C'est
péjoratif.
C'est très, très, très péjoratif. Je donne un exemple comme ça. À l'hôpital, à la base de Valcartier, bon, quand des militaires sentaient le besoin là, de les consulter parce qu'ils sentaient qu'il y avait peut-être des... problème de santé mentale, le choc post-traumatique, ça peut être un paquet d'autres choses aussi.
C'est fréquent,
bon, les services de santé mentale, l'hôpital était au deuxième étage. Je pense qu'ils sont encore, mais pendant un temps, on avait baptisé cet escalier-là l'escalier de la honte. Mais quel message s'envoyait?
Ça n'a pas de bon sens.
Incroyable. S'envoyait un message. C'était...
Les gens, oui. Mais les gens qui baptisent cet escalier-là, l'escalier de la honte, comme on se le disait avant de revenir en honte, ils ont peur eux aussi.
Oui.
Ils ont tellement peur.
Qu'ils fustigent la peur comme pour se blinder contre cette peur. En tout cas, c'est mon interprétation.
C'est un peu un mécanisme de défense.
C'est pas vrai qu'ils ont pas peur.
C'est un mécanisme de défense, mais lui-même extrêmement toxique.
Mais c'est ça. C'est moi, ce que ça me parle, ce qui résonne en moi quand tu dis ça, et quand, c'est que ces gens-là ont peur d'avoir peur.
Oui, tout à fait.
C'est à ça que ça mène.
Ouais.
Et c'est de là la citation qu'on a nommée au début de l'émission qui dit « Oui, la peur peut mener à la haine
bon,
et la haine à la violence. »
On parlait de l'homosexualité. Bon, on a aussi parlé parce que...
Puis on peut parler.
Non, non, mais pendant que tu parlais de la peur, de ce jugement que la culture militaire fait sur la peur, qui m'indigne un petit peu beaucoup, parce que je trouve que les chefs de l'armée devraient essayer de travailler cette culture-là. Je pense que ça serait comme une priorité.
Il y a des améliorations de ce que je sais, mais c'est un changement culturel total, puis un paquebot comme l'armée, ça tourne pas sur un dessus.
C'est vrai. Mais on parlait d'homosexualité, et on se disait, je pensais au film Brokeback Mountain, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que les gens qui sont violents à l'égard des homosexuels, parce qu'ils ont peur de l'être eux-mêmes, je pense.
Ils ont peur de l'attraper, c'est de ça qu'on parlait, là. Mais il y a des peurs.
Moi, je vois ça comme ça. Je ne suis pas un expert, mais ma perception, ça a toujours été ça.
Ben, c'est une peur, c'est une incompréhension. Puis souvent, elle est elle-même alimentée par des années d'éducation. C'est-à-dire que quand on grandit dans ce milieu-là où on attise cette haine-là, mais elle vient elle-même d'une peur.
Je suis certain que dans l'armée, là, Martin, là, si tu fais état de ta peur... Oui, peut-être que l'unanimité des gars vont réagir mal. Mais il y en a... sûrement un pourcentage plus ou moins important qui vont se rapprocher de toi. Moi, si je te dis, là, tu fais état de ta vulnérabilité, si quelqu'un se fout de toi, s'éloigne de toi, te ridiculise, ça vaut pas la peine de continuer à être en relation avec cette personne-là.
T'as 100% raison là-dessus. Puis non seulement ça, mais justement, ça va devenir un pôle d'attraction pour tous ceux, celles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'armée, il y a des femmes aussi, tous les gens qui se sentent interpellés par ça, ils vont avoir un rapprochement qui va se faire. Puis, à un moment donné, c'est peut-être par là que la culture va finir par changer.
Mais les femmes vont peut-être aider à ça, parce que les femmes ont plus tendance à parler de leur vulnérabilité. Je ne fais pas une généralisation abusive, là, mais c'est plus dans le féminin.
Dans le féminin sacré.
Dans ce qu'on perçoit comme étant le féminin.
Oui.
D'aller vite.
Mais c'est intéressant ce que vous dites.
L'essentiel. Là.
Mais je réitère, par contre, c'est un gigantesque paquebot, ça tombe pas sur un disque.
Mais ça, c'est très, très important ce que tu dis. Puis on prend quelque chose qui est extrêmement. C'est un archétype, c'est gros, là. On parle d'un groupe. C'est très stéréotype de notre part également de le prendre. Mais. Je pense qu'on peut faire des ramifications à l'infini avec ça, parce que là, tu parlais, ça va aider ces gens-là qui n'ont pas honte de leur peur et qui aiment cette exposition de la vulnérabilité. Mais ça va dépendre, notre réaction va dépendre de notre peur d'être rejeté ou pas, de qui on veut être aimé.
Mais moi, je pense que le courage, là, c'est d'être capable d'affronter sa peur, c'est de la regarder. C'est pas de la nier, c'est pas de faire comme si elle était pas là, c'est d'avoir le courage de l'affronter, ça veut pas dire la vaincre, là, attention.
Mais ça fait quoi,
affronter, ça veut dire regarder, se dire j'ai peur, puis essayer peut-être de prendre les moyens ou de se prendre par la main soi-même pour changer un petit peu les choses.
Mais c'est comme on dit, tu sais, il y a trois réactions, généralement, face à la peur, tu te sauves, tu gèles ou tu te bats. Ben, tu sais, le courage, c'est de pouvoir réussir à se battre. Ouais. Mais comme tu dis, Pierre, c'est important de faire la distinction entre se battre et vaincre ou être défait, ce qui est une possibilité.
Mais quand on nomme le mot honte par-dessus la peur, ce que j'entends ou ce qui, moi, me vient, c'est qu'à quelque part, la peur, elle disparaît pas comme ça. Elle va être refoulée, réprimée. On n'arrête pas d'avoir peur parce que les gens nous disent que c'est honteux d'avoir peur. Donc, à ce moment-là, il y a des risques de réprimer ça. Qu'est-ce que ça donne, une peur réprimée, les gars?
C'est comme une cocotte minute.
OK.
C'est-à-dire que la pression va monter, mais même le plus solide, le plus...
même un gars de 6 pieds 2 va sauter.
C'est ça, tu sais, mais ça va finir par sauter. Tu sais, c'est ça. On le sait, là, le refoulement des émotions, ça, c'est jamais bon.
Rarement gagnant, hein?
Ben écoute, moi, j'ai au funérail de Jeannine Dussuteau, où j'allais là, je te l'avais compté, je pense, j'ai eu une crise de panique majeure. J'allais m'évanouir devant le premier ministre du Québec, le maire de Montréal, et toutes les notables de Montréal, ça ajoutait, là, tu sais. Mm-hmm. Moi, je parlais pas, j'étais pas en avant, là. J'étais juste assis sur mon siège, à côté d'Alain Saunier, en plus. Alors, tu sais, j'ai senti des symptômes d'évanouissement. Et écoute, je me suis pas évanoui, parce que la crise de panique, c'est ça, c'est que ça va pas au bout de l'affaire. Les gens ont peur de faire une crise cardiaque, mais en font pas une. Ils ont peur de devenir fous, mais ils deviennent pas fous. Mais ça m'a enlevé beaucoup d'énergie. Après.
Mais toi, Pierre, puis tu l'as nommé, t'as fait une crise, ta première crise panique, quasiment tu l'as fait en direct à la télé, t'en as fait à la radio en direct également, et là tu t'es mis à avoir peur d'avoir peur.
Ah ben oui, ça s'appelle l'angoisse d'appréhension, puis je l'ai encore. Je l'avais pas avant de venir ici, mais si j'anime un congrès ou... je sais pas, c'est bien bizarre, ça vient, c'est pas invité, ça prévient pas que ça va venir...
Mais c'est quoi, on a peur de perdre le contrôle? C'est
ça que
ça cache en
dessous? T'as peur de faire une crise de panique devant le monde.
Mais ça implique quoi? On a peur de quoi?
Ben, t'as peur de t'effondrer devant le monde. Alors,
c'est pas le fun,
des trucs que je fais, quand je commence des fois une conférence, je dis, bon, monsieur ou vous, madame, là, qui portez des lunettes dans le premier rang, vous savez que je fais des crises de panique. Si j'en fais une, vous viendrez me ramasser. Mais j'en fais pareil! Tu sais, je vous ai conté la fois que j'avais une conférence à faire et j'avais absolument plus de salive dans la bouche, puis trop niaiseux. Pour aller chercher le verre d'eau qui était à 2 mètres de moi. Tu sais, j'aurais dû juste être un petit peu plus humble puis dire, excusez-moi, là, j'ai besoin d'eau, je vais aller chez... Mais non, j'étais pas capable.
Mais l'humilité, encore, l'humilité, c'est une... ben, pour moi, je trouve que c'est une valeur assez cardinale dans la vie. Puis, justement, tu sais, c'est... Puis, on sait, des fois, dans la société en général, l'humilité, c'est pas toujours valorisé, mais c'est important, justement, des fois, d'avoir une humilité face à sa peur qui n'est pas nécessairement un abandon ou une résignation. Mais sinon, pour revenir sur...
On est plus dans l'acceptation.
Ouais, voilà, on est dans l'acceptation, puis c'est d'avoir l'humilité de dire, ben tu sais, c'est humain, puis tout ça. Puis même, ça peut nous aider, finalement, à mieux la gérer ou même la surpasser. Mais on parlait tantôt de réprimer la peur. Tu sais, dans l'armée, quand on va, par exemple, en Afghanistan, tu sais, on arrive là, on est entraîné. Donc, on a des moyens supplémentaires de pouvoir aller au-delà, puis de pouvoir aller vers le danger, qui est une réaction complètement contraire à l'instinct. Mais sauf que même, c'est souvent après coup. C'est quand tu vas revenir, par exemple, d'une patrouille où il est arrivé quelque chose, tout ça, puis là, tu reviens, puis c'est là que tu lâches complètement. Puis j'ai souvent eu peur. Après ça, dans ma carrière de journaliste, je suis allé au Mali, je suis retourné en Afghanistan aussi. Puis j'ai eu peur à un moment donné d'avoir développé une trop grande témérité, tu sais, qui m'aurait amené à aller un petit peu trop loin dans la quête de l'histoire, tout ça, tu sais, parce qu'en plus je suis pas un journaliste, ça fait pas très longtemps que je pratique le journalisme, fait que, tu sais, des fois,
mais
tu
dans
veux
la
prendre,
peur
ben oui.
Dans la peur d'avoir peur, on entend peut-être la peur de perdre le contrôle. Moi, c'est ça que ça me parle. Peur de perdre le contrôle, peur de se faire prendre par surprise, parce qu'on n'aime pas non plus ce qui est incertain, et on n'aime pas non plus pas décider ce qui est en avant de nous, mais aussi la peur de dépasser certaines limites. On réfléchit à ça et on revient. Stop your heart. You try to scream, but continue à parler de la peur dans quelques instants. Restez avec nous. On regarde si elle a des fonctions qui peuvent être positives. C'est quoi la fonction de la peur? Puis aussi, est-ce qu'on peut la guérir? Est-ce qu'on peut vivre avec? Est-ce qu'on doit vivre avec? On continue d'en parler dans quelques instants. Vous écoutez toujours « On est tous des humains » sur le canal M. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour une demi-heure. On parle toujours de la peur avec nos invités cette semaine, Pierre Craig et Martin Forgue.
Alpha Rococo, des fois j'ai peur.
D'à qu'est-ce qu'elle sert, la peur? D'à qu'est-ce qu'elle sert, la peur? Elle doit bien servir à quelque chose. Mm-hmm. Si elle nous servait pas, on arrêterait. Il y a un aspect de manque de contrôle. On n'a pas toujours le contrôle dessus, mais je pense, comme on a nommé tantôt, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'elle se déclenche quand c'est nécessaire. Malheureusement, des fois, elle se déclenche un petit peu pour rien. Est-ce qu'elle sert à nous protéger? Oui.
Mais la peur, dans le fond, c'est une des rares émotions qui peut être un frein puis un moteur en même temps. Parce que tout va dépendre de notre réaction. T'sais. Fait que, autant ça peut être le sentiment qui va t'arrêter complètement, ou ça peut être celui qui va, sur lequel tu vas t'appuyer, qui va t'alimenter. Mais ça, par contre, ça, je pense que ça vient avec beaucoup de travail. On appelle ça la résilience, finalement, entre autres. Mais c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas nécessairement instinctif.
Mais la peur, ben, tu le disais au début, Martin, ouais. La peur, c'est un mécanisme naturel. Mm-hmm. Les animaux ont peur. On a peur, puis on est des animaux, là,
oui.
comme tous les autres. Et les mécanismes, moi, je suis pas un biologiste, mais quand la peur t'amène de l'oxygène, la peur t'amène une énergie, la peur, avec la peur, si on dit la peur donne des ailes, mais c'est vrai, tu vas courir plus vite. Donc, il y a un aspect positif à la peur. Maintenant, La peur que moi je ressens ou ton stress post-traumatique, mm-hmm. Martin, c'est-tu des choses qui nous aident dans la vie? Je sais pas quoi te dire là-dessus. Moi, je dis souvent à la fin de ma conférence, quand mm-hmm. je parle de tout ça, l'angoisse, l'anxiété mm-hmm. puis le trouble panique m'ont empêché d'être arrogant. Et je leur dis, ça m'a humanisé. Mm-hmm. Quel homme serais-je devenu si je n'avais pas eu ça? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est mm-hmm. l'homme que je suis devenu me plaît bien à cause de ça, à cause de cette peur-là.
On parlait d'humilité tantôt.
Est-ce que je la choisirais? Pas sûr, mm-hmm. mais bon, c'est là que c'est là, c'est tout.
On parlait d'humilité tantôt. C'est que ça finit par nous rendre un peu plus humbles face justement
vous
à l'humanité.
Humble. Wow.
Oui.
Mais, oui.
Là, mais c'est super intéressant.
Puis l'humilité, pour moi, c'est quelque chose vers lequel on doit attendre à un moment donné en tant qu'être humain. Parce que l'arrogance, tu sais, c'est pas toujours bien reçu. On la confond souvent avec la confiance en soi. Mm-hmm. Donc, mais tu sais, être capable d'être humble devant ses propres...
Je reviens souvent au fait que la vulnérabilité rapproche les gens au lieu de les éloigner. Mm-hmm. Bon, j'ai une anecdote à raconter. Dans ma carrière, j'étais à Québec et on me demande d'animer une émission du style droit de parole à Québec. J'ai aucune expérience là-dedans. Alors, moi, là, je demande une pratique... une répétition générale. Bon, j'arrive, je vais faire une longue histoire courte, là, et je fais littéralement dans mon froc, il y a 3 caméramans, un machiniste, un régisseur, 3-4 gars ou filles qui sont dans la régie, il y a peut-être 10-12 personnes qui me regardent, et là, je choke. Mais comme je peux arriver arrogant, le régisseur est venu vers moi, puis il dit, Pierre, fais-toi-en pas, là, regarde. On va reprendre. Donc, il a été gentil avec moi et j'ai repris, puis ça a été correct. Si j'étais arrivé, là, le genre ferait comme...
tes affaires, ouais.
Là, il aurait probablement dit, bon, ben... Sans vouloir me caler, il aurait dû...
Non,
mon homme...
Ça va peut-être te faire du bien, ça va peut-être te refroidir.
Ça rapproche les gens, ça amène de l'aide, mais je veux juste qu'on fasse attention, parce que là, on parle de nos peurs. La tienne, je pense, est assez... Tu sais, un stress post-traumatique, c'est pas rien. Moi, j'ai le trouble panique, là, que si tu veux... Mais il y a des gens qui ont des peurs, des angoisses, c'est des anxiétés qui dépassent nettement ce dont on parle. Là. Et moi, je veux faire attention
quand
à ces gens-là.
Quand est-ce qu'on sait qu'on l'a dépassé?
Ah, mais c'est pas évident.
Cette zone-là de moteur, y a-tu un diagramme qui peut nous aider?
Non, parce que ça reste quand même assez, malléable,
Il y a une fenêtre.
Mais si je vais essayer de donner un exemple, maintenant personnel. Moi, je suis capable. Puis bon, moi, je me suis lancé dans le vide complètement. J'ai quitté l'armée. Je me suis lancé comme journaliste indépendant. Mm-hmm. J'ai à peu près jamais travaillé dans une salle de nouvelles. C'est un risque, donc ça vient avec des appréhensions. Sauf que avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais autant peur de l'échec que du succès.
Et voilà. Ah oui, ça c'est...
T'sais? Surtout quand les choses commencent à bien aller, j'ai publié des livres, j'ai
pourquoi peur du succès, Martin?
Ça, par contre, je pense que c'est la partie irrationnelle de la chose. C'est que le succès vient avec... peut venir, surtout dans ce milieu-là, vient avec une notoriété, donc vient avec des responsabilités, des attentes.
Mais il faut maintenir
ça
aussi.
Ça crée de la pression.
Et le risque de chuter, plus tu es haut, plus tu chutes.
Mais tu retrouves
fort.
Ton risque de l'échec dans ton succès. Parce que tu as du succès.
Ben
regarde de Xavier Dolan. Moi, je regarde les articles de ce matin. Mm-hmm. Le faux pas de Xavier Dolan, titre La Presse.
T'en permet plus,
Nathalie Petrovski écrit, est très gentille, mais en même temps, elle dit que c'est pas son meilleur film. Alors, il est victime de son succès, tu sais.
Oui,
et
tout à fait.
Si tu atteins un niveau de succès, il y a des attentes pour que tu reproduises ça, puis là, tu commences à avoir peur de l'échec de la barre encore plus haute qui a été mise dans ta vie.
Et dans un cas comme dans l'autre, en tout cas chez moi, puis même chose pour tout ce qui est stress post-traumatique, ça a provoqué des comportements autodestructeurs, beaucoup. T'sais. Par exemple, t'as peur d'échouer. T'as peur d'échouer, tu te convaincs que t'as échoué, fait que tu te dis, ben, coudon, tu vas me laisser aller. Ou t'as la peur du succès, justement, tu vas dire, t'as peur de ça, parfait, je vais me bousiller. Fait que, tu sais, c'est toutes des réactions qui sont pas très rationnelles.
Mais
tu parlais tantôt de mécanismes pour essayer de surmonter ça. Je pense pas qu'on puisse le faire seul, en fait. Faut en parler, faut pas se renfermer. Il y a des gens, juste avoir une conversation avec des gens en qui on a confiance. Ça peut aider. Il ne
faut pas faire comme si on était dans l'armée. Je reviens à ta description de tantôt, puis faire comme si c'était honteux, faire comme si on allait être jugé.
Donc, quoi, peur partagée est à moitié soulagée, c'est ce que vous me dites?
La peur, c'est beaucoup les autres. Mathieu, tu parles de l'armée, je reviens à ton exemple parce que je te trouve bon. Ben, si c'est accepté, tu vas avoir moins peur, parce que d'abord, tu vas savoir que tous les autres ont peur, eux autres aussi, tu vas le sentir, tu sais, écoute, de toute façon, dans l'armée, tout le monde le sait bien que tout le monde a peur, voyons donc, c'est même pas un secret de polichinelle, c'est une évidence.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que quand, du moment où c'est accepté à l'intérieur d'un groupe plus ou moins restreint, tu sais, là, il vient ce que je considère comme étant le point le plus positif, tu sais, de mon passage dans l'armée, c'est l'esprit de fratrie. T'sais, là, ça intervient, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, là-bas, moi, les gens avec qui j'étais, on a créé des liens complètement indissociables, puis aujourd'hui, peu importe les opinions que je peux avoir, puis communiquer sur le militarisme, tout ça, ça fait partie de mon travail pas mal, ils vont dire, on n'est pas d'accord, mais tu sais...
Et tu dis que la peur est un ciment.
Oui.
La peur peut être
Oui, tout à fait.
Des humains, là.
Tout à fait, mais tout vient avec l'ouverture. Tu sais, c'est comme un thème qui s'est dégagé.
Tout vient de savoir la peur d'avoir peur, la peur d'être accepté, on veut être accepté de qui, et la peur de notre propre vulnérabilité, la capacité à accepter la vulnérabilité des autres également. Il y a une question, il y a une chose qui me questionne dans la vie et qui, à la limite, me dérange un peu beaucoup, comme tu disais tantôt, Pierre, dans le couloir de la honte. Moi, c'est cette chose-là qui me dérange. On va aller en musique pour y réfléchir, mais vraiment, je veux vous la poser avant d'y aller. Est-ce que la peur, elle est nécessaire? On dirait qu'on est conditionné à la voir comme nécessaire. À la limite, on est rendu qu'on dit « sors de ta zone de confort, c'est là que le bonheur est, c'est là où tout ce que tu as toujours voulu est. » Est-ce que de surmonter notre peur, c'est vrai que ça nous mène au Graal?
They say don't let them in. Close your eyes and clear your thoughts again. But when I'm all alone, they show up on their own. 'Cause inner demons fight their battles with fire. Inner demons don't play by the rules. They say just push them down, just fight them harder. Why would you give up on it so soon? So angels, angels, please just keep on fighting. Angels, don't give up on me today. 'Cause the demons, they are there, they just keep biting. 'Cause inner demons just won't go away. So angels, please hear my prayer. Life is pain. They say it won't be hard, but they can't see the battles in my heart. But when I turn away, the demons seem to stay. 'Cause inner demons don't play well with angels. They cheat. Protect me from these rebels. This is a battle I don't want to lose. So angels, angels, please just keep on fighting. Angels, don't give up on me today. 'Cause the demons, they are there, they just keep fighting. 'Cause inner demons just won't go. So angels, please
C'était Julia Brennan, Inner Demons.
Faut-tu avoir peur? Faut-tu avoir des peurs pour être heureux? Est-ce que le Graal se situe réellement derrière ce mur invisible qu'est la peur, mes gars, messieurs ici? Mm-hmm. Pour vrai. Parce que ça, j'ai pas la réponse, mais j'ai un point de vue, mettons.
J'ai quand même une anecdote sur la nécessité d'avoir peur. Mm-hmm. C'était en Afghanistan, c'était à la fin de la mission, c'était février 2008 environ. Puis là, la nouvelle, les militaires qui venaient nous remplacer étaient arrivés, puis on faisait ce qu'on appelle la relève en place, c'est-à-dire qu'on leur expliquait la job, tout ça. Puis pendant une nuit, on est dans une tour d'observation, dans un poste d'observation sur le camp, puis ça se met à tirer. Tout le monde s'est baissé, sauf moi. Parce que j'étais rendu, on dirait, complètement... Désensibilisé. Tu sais, puis là, la réaction, la pensée que j'ai eue, c'est « Il est temps que je m'en aille. » Il était... parce que là, j'ai pas eu peur ce coup-là, mais...
T'as eu peur de pas avoir peur.
Ben, sur le coup, en fait... Ben, après, oui. Après,
ben c'est parce que rendu là, toute la fonction de la protection du cerveau reptilien, du système d'alarme intégré, marche même plus quand il faut. Là, tu sais, c'est comme...
Mais ça s'est passé comme ça, puis je l'expliquais pas, mais j'ai dit, OK, là, il est temps qu'on revienne au Canada.
C'était
là,
pas du courage, là. C'était pas correct, ça. C'était pas correct.
Du tout, parce c'était que j'ai même été... J'étais complètement surpris par ça. Mais, tu sais, c'est... On disait que la peur était un mécanisme de survie.
Ouais.
C'est vrai.
Tout à fait. Tout à fait. Mais tantôt, tu parlais beaucoup de succès et tout ça. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut d'abord... Parce que moi, ce mur-là, de la peur, et que derrière ce mur-là, il y a le Graal, il y a le bonheur, il faut sortir de sa zone de confort, ça m'a tout le temps un petit peu dérangée parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas l'absence de peur, la sérénité, finalement? Tu sais, m'en est-ce nécessaire d'aller là? Mais là, je me suis dit, ben écoute, peut-être que c'est vrai dans le cas où on a peur d'être heureux.
Contrôles-tu la couleur du ciel?
Non, mais je le trouve assez beau comme il l'est, par contre.
Tu ne contrôles pas la couleur des arbres. La peur, non. Tu ne peux pas contrôler ça. Non. Le Graal, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est être bien avec soi-même. C'est pas écrit en quelque part ce que c'est. Je pense que c'est différent pour chaque personne. Tu sais, moi je sais pas, je reviens toujours à ça. Je pense que des gens ont des peurs beaucoup plus grandes que celles que Martin et moi, additionnés ensemble, on a, et même toi, Emmanuel. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des très, très, très grandes peurs. Je pense que ces gens-là, il faut pas leur dire, il faut que tu sois courageux, il faut que tu affrontes ta peur, il faut que tu sortes de ta zone. Tu sais, je pense pas qu'on
doit
leur
dire quoi faire.
Ben, parce que, dans le fond, moi, je me sens humble par rapport à leur peur à eux. Je me sens humble par rapport à leur souffrance à eux. Tu sais, j'ai participé à un colloque sur la maladie mentale, puis je me suis fait dire, mais avec une infinie gentillesse, ce que moi j'avais, c'était peu. Puis ils étaient pas méchants, là. Puis c'était vrai. Ce que moi j'avais, c'était peu par rapport à des gens qui ont de la schizophrénie ou des angoisses morbides ou de la dépression.
Tu vois, moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette intervention-là. Pour moi, elle n'est pas vraie.
Moi, je l'ai pris.
Mais tu peux continuer, mais je vais le nommer moi au micro. C'est important.
OK, mais c'était dit avec une grande gentillesse et beaucoup d'humilité. C'était pas un reproche, là. C'était pas « qu'est-ce que tu fais ici, toi? » C'était pas ça du tout, du tout. Et la souffrance des gens qui m'entouraient, je la percevais comme étant plus grande que la mienne. Et je sais que des gens souffrent plus. Puis Martin, tu sais, il y a des gens qui souffrent plus que nous autres.
Ça donne de l'empathie quand même. Tu sais, avoir une humilité par rapport à ça.
Mais ça permet de relativiser notre situation.
Puis ça donne un petit peu plus d'empathie.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on dit justement à... ces gens-là, à moi, qui actuellement, je suis pas dans une situation de peur, mais qui sait, tantôt, ce soir, demain, je vais en vivre de la peur. On a tous nos peurs. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui ont encore peur et qui ont peur d'avoir peur?
Tu sais, ben, j'ai beaucoup parlé de l'aspect socialisation là, autour, pendant l'émission. Puis, tu sais, on vit dans une société de performance.
Oui.
Donc,
quand on a peur.
Oui, donc la résignation, accepter ses peurs, puis dire oh non, j'irai pas là, c'est dévalorisé, tu sais. Mais donc, il y a un effort à faire pour essayer de changer cette perception-là, parce que tu sais, on se voit souvent dans le regard des autres aussi. Donc, je dirais aux gens, si vous avez autour de vous des proches, des amis, de la famille, tu sais, des gens qui réussissent pas nécessairement à surmonter leur peur, leur crainte, leurs appréhensions, de ne pas les juger, tu sais. Ça, pour moi, c'est un des... C'est fondamental. Parce
aller vers eux, leur manifester de l'ouverture aussi.
Ben, un
parce
soutien,
que tu disais,
ben oui.
Tu disais tantôt, il faut pas rester pogné avec ça, il faut en parler. Mais ben, voilà. Oui, il faut en parler. Puis tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut se prendre soi-même par la main. Dans le fond, on peut se dire, si j'avais un enfant et que cet enfant-là souffrait de l'angoisse de laquelle je souffre, je ferais quoi avec? Mm-hmm. Ben, je fais ça avec moi-même.
C'est la technique du meilleur ami, d'abord, moi, j'appelle. Oui,
ton enfant, tu l'acceptes comme il est parce que tu l'aimes, à moins que tu sois un parent bizarre.
On est beaucoup plus indulgent avec les autres qu'avec nous.
T'acceptes ton enfant, puis tu vas t'en occuper, tu vas l'amener chez le pédopsychiatre, le psychologue, ou je sais pas quoi. Si ça marche pas, peut-être que la médecine va te conseiller des médicaments. Puis tu sais, la médication, mais la médication, moi j'ai rencontré des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis ils me disent, moi il m'en faut un peu. Bon, alors, ça peut être une autre solution, mais je pense que ça prend une ouverture de l'entourage, puis je pense qu'il faut que tu essayes d'aller vers l'entourage, ou sinon que l'entourage aille vers toi si tu es dans l'impossibilité d'aller vers les gens qui sont autour de toi.
Donc, de prendre conscience des influences sociales qui sont autour de nous et qui nous poussent parfois à faire des choses, pas au nom de notre propre respect, de notre propre désir, mais bien ce que les autres veulent qu'on fasse, de pas tomber dans ce piège-là quand on a peur, mais également d'agir avec bienveillance, avec cette partie-là de nous qui a peur, de la tenir par la main, d'aller l'écouter. Peut-être ça pourrait servir. En terminant, quel serait pour vous, Martin, Pierre, il nous reste un 2 minutes, mais ça serait quoi la peur la plus importante à éliminer, selon vous, la première en tête de liste?
Je serais tenté rapidement de citer le président Franklin Delano Roosevelt qui disait « La seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même ». Mais bon, ça, c'était. Si on faut contextualiser
la citation. Mais si tu t'appropries ces mots, mais si tu endosses l'idée quand même.
Oui, tout à fait. Mais sauf que, au-delà de tout ça, et on parlait tantôt d'acceptation des limites, tu sais, mais on peut décider. On peut avoir des gens qui vont décider d'essayer de surmonter leur peur, mais c'est aussi de dire si ça marche pas, c'est pas grave.
Donc, arrêter d'avoir peur, serait vraiment la chose majeure pour toi.
Mais accepter des fois qu'on n'est pas capable d'aller au-delà, puis c'est correct.
Ou alors accepter qu'on a peur d'avoir peur. Tu sais, là, la chanson du début disait « I'm a human, I do only what I can ». Personne n'est allé acheter la peur au Walmart ou à l'Abbé ou whatever. Personne n'est allé acheter ça. Personne la veut. Elle est là. C'est un fardeau. On porte toutes sortes de fardeaux.
Je suis en fauteuil roulant.
Tu portes un fardeau. La peur, c'est un autre fardeau. Il y a des fardeaux plus grands, plus petits, puis chacun porte le sien. J'ai quasiment l'air religieux en disant chacun porte sa croix.
Mais
c'est vrai. Mais c'est ça. On a chacun notre fardeau, puis je pense qu'il faut, le prendre et l'accepter parce que c'est juste ça qu'on peut faire. On est des petits humains qui marchons aux côtés d'autres humains, c'est tout. Je pense.
Et la peur la plus importante à éradiquer pour toi? Si on y va, là. Largement, mais quand même.
Là, tu me poses une sacrée
c'est
question.
C'est pas pire, hein?
Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Peut-être la peur d'aller vers les autres, parce qu'on a trop peur du jugement des autres. On revient peut-être à l'armée. Mais dans le fond, on se disait tantôt que la société, c'est comme l'armée aussi. Est-ce que la peur est acceptée? On pense qu'elle l'est pas. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'elle l'est plus si on dit à quelqu'un « j'ai peur ». Peut-être qu'il va plus l'accepter qu'on pense.
C'est un microcosme de la société, en fait.
Fais-toi confiance, donne-toi la chance d'enfin de voir la différence de ce qu'il y a à l'autre bord, de ce qui peut t'attendre. C'est quoi ça te coûte de l'essayer, ce que je sais à date, t'as pas été winner, tu comptes encore tes heures. Ça s'appelle la peur du bonheur. Ça s'appelle la peur du bonheur. Fais-nous en part, ça serait plaisant juste de pouvoir se comprendre enfin qu'on puisse prolonger le temps. C'est pas parce que t'es bien méchant, t'es juste un peu mêlé en dedans, mais moi, je crois à demain. La peur du bonheur. Ça s'appelle la peur du bonheur. Mmh.
charge de voltage.
This is a battle I don't want.
Donne-toi le courage d'embarquer dans la vague sur la barge. Reprends le dessus et bats-toi contre la barre du bonheur.
Dis-toi bien une affaire, mon ange, c'est que peu importe où tu pars d'envie, y'aura toujours l'émotion du sourire. Parfois ce que je dis c'est bien banal, c'est juste une histoire bien normale. Y'aura toujours l'avenir pour te faire sourire.
Ça s'appelle la peur du bonheur. Ça s'appelle la peur du bonheur.
C'était Kevin Chouinard, La peur du bonheur.
C'est déjà presque tout pour cette émission sur la peur. Martin Forgues, vous êtes vous. Tu es toujours journaliste indépendant, ouais. Chroniqueur pour le Ricochet, entre autres. Mm-hmm. On peut te lire sur le www.ricochetmedia.media. Le projet de livre est encore en cours.
Ah, il y en a plusieurs.
Ah, il y en a plusieurs. Mon Dieu, tu es multitâche, mon ami. Et un documentaire également sur le jour du souvenir, oui. Verra le jour. Mm-hmm. Lui, on suit de très près toutes tes collaborations à titre merci. D'analyste indépendant. Merci infiniment.
Puis c'est l'accueil qui a permis d'être si ouvert. Faut le dire.
C'est un plaisir de voir que des jeunes journalistes qui y vont et qui font des affaires intéressantes. J'ai bien hâte de voir ça.
Pierre, justement, toujours affilié au groupe de recherche Adage pour faire connaître la situation de l'accès.
Ça s'appelle l'accès au droit et à la justice.
Ouais. Oui, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cet accès à la justice-là au Québec et pour la faire avancer également, tu es toujours également porte-parole de l'organisme Revivre, un organisme qui œuvre en santé mentale et plus précisément auprès de gens atteints de troubles de l'humeur, troubles dépressifs, anxieux et bipolaires. Et on continue de te souhaiter bonne retraite.
Merci.
Qui n'est pas si reposante que ça.
Mais maintenant, je sais ce que je vais faire quand je vais être grand. Ah. Je vais être journaliste.
Ah, c'est ça. Merci Clotilde Seille à la réalisation. Merci également à Catherine Bourderon à la recherche. Merci Maurice Bolduc à la régie. Et pour ma part, je dois vous dire que les premières peurs, pour moi, desquelles on doit se libérer, qui sont primordiales pour être heureux, ce sont les peurs d'être heureux, les peurs d'aimer, d'être aimé et la peur d'être soi-même qui sont des absolus poisons à l'épanouissement de l'individu terrestre que nous sommes. Un geste est posé soit au nom de la peur et soit au nom de l'amour. On doit faire un choix quotidiennement à chaque seconde et il semble qu'il n'y ait pas de courage sans peur. Il faut également beaucoup de courage pour accepter d'avoir peur. Merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine.
Merci.
Merci.
I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.